Bonjour mes frères et mes sœurs. Savez-vous qui est le Christ? Est-il Dieu? Est-il le Fils de Dieu? Y a-t-il vraiment deux dieux dans la Bible? Parce que, voyez-vous, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, je dirais, pensent qu'il y a un Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu méchant, un Dieu cruel, un Dieu qui permet aux gens de se tuer. Et d'autre part, il y a un Dieu dans le Nouveau Testament, le Christ, qui est doux, qui est charmant, qui est compatissant, plein de miséricorde. Est-il vraiment le cas? Y a-t-il vraiment deux dieux, un dans l'Ancien Testament, qui ne serait pas très agréable, et l'autre dans le Nouveau Testament, que nous appelons le Christ? Ce sont des questions importantes, voyez-vous, car ces questions dirigent l'esprit de beaucoup de gens en ce qui concerne le christianisme, et voilà qu'on forme déjà une opinion sur Dieu. Il y a même des gens qui pensent qu'il y a deux dieux, mais il n'y a pas deux dieux. Vous direz, mais vous venez de dire que le Fils de Dieu, c'est le Christ, d'accord. Eh bien, c'est justement le sujet de mon sermon ce matin, ou cet après-midi, tout dépend où est-ce que vous êtes lorsque vous entendez ce sermon. Une chose est importante. Voyez-vous, nous avons une langue, en français mettons, nous parlons le français, les Anglais ont leur langue, les Allemands ont leur langue, ainsi de suite. La Bible n'a pas été écrite en français. La Bible n'a pas été écrite en anglais non plus, ni en allemand. À l'origine, la Bible était sur des rouleaux, mettons, et la plupart des écrits de l'Ancien Testament était en hébreu, hébreu hébraïque, ancien. Autrement dit, on ne connaît même pas cette langue. Aujourd'hui, nous avons donc des traductions dans toutes les langues, mais rappelez-vous que nous jouons maintenant ici avec les mots. Le mot « Christ » que nous avons en français n'existe pas dans la Bible grecque. Certes, il y a « Christos », mais ce n'est pas le même mot. Le mot « Dieu » que nous avons en français n'est pas dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs dénominations, plusieurs appellations, plusieurs façons de dire de Dieu de l'Ancien Testament. Une fois que vous avez ceci en tête, voyez-vous, vous commencez à comprendre la confusion qu'il y a aujourd'hui dans l'esprit des gens. Je répète, la plus grande partie de l'Ancien Testament a été écrite en hébreu. Et la plus grande partie de l'Ancien Nouveau Testament, je dirais le Nouveau Testament tout entier, a été écrit en grec. Alors, si par exemple, vous cherchez les mots en français par rapport aux mots qui sont dans la Bible originale, mettons en hébreu pour l'Ancien Testament, en grec pour le Nouveau Testament, vous trouverez plusieurs appellations, plusieurs désignations, plusieurs noms qui sont donnés à Dieu. Une fois que vous connaissez cette vérité élémentaire, voyez-vous, vous pouvez savoir que lorsque vous vous adressez à Dieu, vous devez savoir qui est ce Dieu à qui vous vous adressez. Eh bien, j'ai une surprise pour vous. Même vous qui êtes dans l'Église de Dieu, vous n'avez peut-être pas pris le temps pour voir quels sont les divers noms, diverses appellations même. D'abord, dans l'Ancien Testament, qui sont donnés à Dieu. Voyez-vous, j'ai dit Dieu maintenant, vous ne savez pas de qui est-ce que je parle. Du Christ en tant que Dieu ou du Dieu le Père en tant que Dieu? Eh bien, dans ce sermon aujourd'hui, que vous soyez membre ou non, je vais préciser ce sujet. Je vais vous expliquer exactement comment la Bible définit Dieu et le Fils de Dieu en même temps. Et en même temps, quelles sont les différences, si différences existent, entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Voyez-vous, j'ai déjà fait une sorte, je dirais, démarcation entre Dieu le Père, Dieu le Fils. Ceci est juste. Mais continuons. Dans les versions françaises, il y a plusieurs versions du reste, surtout de plus en plus nous avons des versions modernes, mais l'une des versions françaises qui est intéressante, c'est Taub. C'est la Bible française. Eh bien, dans Taub, là vous avez vraiment des indications intéressantes, parce que dans Taub, vous avez des précisions qui sont données à Dieu le Père, au Christ. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 7 différentes appellations dans Tob, parce que Tob prend les mots originaux pour Dieu, pour le Fils de Dieu, etc. Mais laissez-moi d'abord vous signaler, juste pour votre compréhension, les divers noms qui apparaissent dans l'Ancien Testament, dans Hébreu, et qui désignent, comme on dit en français, Dieu. Voyez-vous, Dieu, le mot en français, Dieu, c'est un peu restreint. Mais laissez-moi vous citer les 7 noms en hébreu qui sont donnés dans l'Ancien Testament, dans le texte original, et qui désignent donc, comme nous venons de dire, Dieu. D'abord, c'est Yahvé. Yahvé, c'est un mot intéressant parce qu'il n'y a pas de voyelle dans ces Yahvé. Ce sont 4 consonnes, en quelque sorte. Et on ne sait même pas aujourd'hui comment prononcer ce mot. Et pourtant, dire qu'il y a des gens aujourd'hui au sein du christianisme qui font une religion, un groupe, une croyance basée sur ce mot Yahvé. On dit même que, à moins que vous sachiez comment prononcer ce mot, vous ne serez pas sauvés. Ça n'a pas de sens. Comment pouvez-vous prononcer 4 consonnes alors que vous ne mettez pas une voyelle entre les consonnes? Et vous, déjà, nous sommes bloqués. Parce que dans la langue originale, Yahvé n'avait pas de consonne. Donc, on ne sait pas comment c'était vraiment la prononciation exacte. Bon, ça c'est donc Yahvé que la Bible française ou les Bibles françaises traduisent par le Seigneur. Parfois, l'Éternel. Là encore, vous avez en français deux mots qui désignent la Yahvé ou bien qui sont traduits de Yahvé. L'Éternel ou le Seigneur. Ensuite, vous avez Elohim. Elohim est aussi Dieu. Du reste, ce mot Elohim est intéressant. Elohim signifie Dieu au sens pluriel. Autrement dit, prenez le mot famille. C'est quoi une famille? Ce n'est pas une personne. C'est un mot qui désigne un groupe de personnes. Donc, famille, c'est un mot uni. Pluriel, si vous voulez. C'est un mot singulier qui désigne plusieurs personnes. Ça, c'est Elohim. Et la Bible commence du reste, l'Ancien Testament, le premier, au commencement, Dieu. C'est en hébreu Elohim. Alors, donc, au commencement, Dieu, Elohim, c'est une famille. Il y a plus qu'une personne dont il s'agit parce que Elohim signifie, je répète, une famille ou bien plusieurs membres d'une famille. Nous verrons ça dans quelques instants. Ensuite, vous avez toujours en hébreu Adonai. En français, une Bible française ne donne pas le mot Adonai. Mais Adonai signifie aussi le Seigneur, mais c'est un peu différent dans le sens hébreu. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Adonai, c'est le Seigneur qui est un peu différent du Seigneur Yahvé. Ensuite, vous avez Adonai Yahvé. Voyez-vous, ce sont des termes qui sont dans la Bible originale. Alors c'est quoi, c'est qui Adonai Yahvé? Tob, la version dont je vous ai parlé, Adonai Yahvé signifie le Seigneur Dieu. C'est aussi intéressant. Donc, je sais que ces mots sont un peu difficiles pour vous les rappeler, mais je tâcherai de vous donner à la fin de ce sermon une récapitulation. Donc, je répète, il y a Elohim, il y a Yahvé, il y a Adonai, Adonai, Yahvé. Ensuite, vous avez Yahvé, Elohim. Voyez-vous, là, c'est encore une autre façon d'appeler Dieu. C'est le Seigneur Dieu. Plus tard, un peu plus loin, sixièmement, vous avez Yahvé Sabaoth, le Seigneur Tout-Puissant. Tous ces noms, je répète, tous ces attributs se trouvent dans l'Ancien Testament que nous, en français, en quelque sorte, nous les ignorons. Nous disons Éternel, l'Éternel ou bien le Dieu. Et pourtant, il y a une différence. Pas de différence en ce qui concerne la personnalité, non. mais différence dans le sens qu'on en donne. Selon le cas, selon les circonstances, un de ces attributs sont donnés dans la Bible lorsqu'on parle de Dieu de l'Ancien Testament. Et c'est un moment, je vous dis, il y avait sept définitions, sept façons d'appeler Dieu. Cet moment, c'est Shaddai. Shaddai, c'est un mot en vogue hébreu qui signifie le puissant, le tout-puissant. Alors, qui est Dieu? Qui est tout-puissant? Qui est Dieu? Il est le Seigneur. Qui est Dieu? C'est le Seigneur qui a tout créé, qui a tout fait. Qui est Dieu? Dieu le Père, Dieu le Fils. Alors, continuons. Pour le moment, nous avons seulement vu les diverses appellations que l'on donne à Dieu et qui sont surtout dans l'Ancien Testament. Dans ce sermon aujourd'hui, je vous parlerai particulièrement du Christ. Et qui est le Christ? Le Christ est Dieu. Bon, je vous pose la question, le Christ est-il Dieu? Le Christ est-il le Fils de Dieu? Y a-t-il une différence entre Dieu et le Fils de Dieu? Voyez-vous, nous qui sommes membres de l'Église, nous pouvons nous poser ces questions. Elles sont valables, elles sont importantes. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas aujourd'hui vraiment qui est le Christ. Et ils confondent le mot « le Fils de Dieu » avec Dieu. Ensuite, ils marquent une séparation entre les deux. Et on commence à dire qu'il y a deux dieux, dont l'un serait l'Ancien Testament, l'autre serait dans le Nouveau Testament, ainsi de suite. Voyez-vous, ce Dieu suprême qui existe a existé dès le commencement. Ce Dieu dont nous parlons avec ses diverses appellations, c'est un seul Dieu. Et vous verrez dans quelques instants, lorsque je vais détailler le sujet, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, au commencement, la Bible dit, au commencement, Dieu, c'est Elohim, la famille. Donc, c'est Dieu le Père et Dieu le Fils en même temps qui ont créé. À cette époque-là, à ce moment-là, les anges même du ciel se réjouissaient de voir la création divine. Donc, le Christ du Nouveau Testament, existait déjà dès le commencement. Parce que c'est marqué dans l'Ancien Testament, Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Elohim ». Donc, ce Dieu, cette famille divine, Dieu le Père, Dieu le Fils. Je ne pense pas que nous, en tant que membres de l'Église, nous avons pris le temps d'examiner cela. C'est important, certes. Ce n'est pas important, non, je ne dirais pas ça. C'est important dans ce sens que ça nous aide à comprendre, mieux comprendre ce que c'est que la famille de Dieu. Et nous sommes un jour dans cette famille. Nous sommes aussi membres de la famille divine. Membres éternellement parlant, qui vivront à jamais avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Voyez-vous, je ne veux pas compliquer ce sermon. Je ne pourrais pas, certes, vous donner les explications nécessaires dans chacune de ces sept appellations, je tâcherai dans ce sermon de prendre deux ou trois appellations en même temps. Et ce qui est important, voyez-vous, il y a sept façons, comme vous voyez, de nommer la divinité. Pourquoi sept? Là encore, ce sont des choses importantes parce que la Bible met l'accent sur le mot sept pour définir la totalité. Quelque chose qui a été déjà fait, accompli, c'est fini. Donc, la totalité nommée par, ou bien désignée par le mot, par le chiffre 7, nous montre qu'il y a sept attributs, cette appellation, si vous voulez, qui sont donnés au Christ, au Dieu le Père, en même temps, si vous voulez. Alors, qui était le Christ? Par le passé. Qui est le Christ? Aujourd'hui, dans la plupart du temps, les chrétiens diront, eh bien, le Christ, c'est le Fils de Dieu. Bon, d'accord. C'est le Fils de qui? De Dieu. De Dieu le Père? Je pense. Je me rappelle, vous savez, ça me rappelle l'interview que j'ai eue un jour en Guadeloupe. La personne qui m'interviewait à la télévision, il dit, Monsieur Partant, je ne suis pas d'accord avec votre religion. J'ai dit, bon, pas de problème. Il dit, ça ne vous fait rien que je me fasse le porte-parole du diable? Il dit, non, allez-y. Moi, j'ai dit, écoutez, on parlera seulement de la Bible, rien d'autre, pas de politique. Il dit, bon. Alors, dans la conversation, il m'amenait toujours, me poussait toujours vers la politique. J'ai dit, non, revenons vers la Bible. Alors, on a discuté pendant quelques temps. Ensuite, il me dit, juste, il y avait deux minutes qui restaient. Alors, croyez-vous à la Trinité? Voyez-vous, c'est un mot piège. On joue à quoi avec les mots? Je dis, qu'entendez-vous par Trinité? Eh bien, Dieu, le Christ et le Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit qui? Mais Saint-Esprit, je dis non, Saint-Esprit qui? En tant que personne? Mais oui. Écoutez, je dis, dans ce cas-là, laissez-moi vous poser une question moi-même. Le Christ avait pour Père qui? Dieu le Père. Je dis non, d'après la Bible, vous vous trompez. D'après la Bible, le Christ a été conçu par le Saint-Esprit. Donc, il était le fils du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit était une troisième personne. Oh ben, il dit, c'est le moment de conclure notre interview à la télévision. Eh bien, voyez-vous, ça, c'est important. Prenons le temps de voir exactement ce que c'est que cette Trinité dont on parle. Si le Christ avait vraiment Dieu le Père, en tant que Père, il n'était pas né de l'Esprit, Saint-Esprit. Et s'il était vraiment né du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas être une troisième personne, car la Bible dit, et le Christ lui-même a dit, « Mon Père », en se référant à Dieu le Père. Et maintenant que vous avez cette introduction, et nous devons savoir tout ça en tant que membre de l'Église, laissez-moi vous citer la façon dont le Christ a été né, la façon dont la Bible décrit la naissance du Christ. Et c'est très clair, voyez-vous. Prenons Matthieu chapitre 1. L'évangile, selon Matthieu, donne la naissance du Christ, des précisions sur la naissance du Christ, avec des indications très précises. Je cite Matthieu 1, verset 18 à 21. Il dit, voici, verset 18, voici de quelle manière, voyez-vous, Matthieu parle déjà de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. On ne peut pas être plus clair. On parle de la naissance du Christ, on dit voici de quelle manière cette naissance a eu lieu. Marie, sa mère, ayant été fiancée, là encore, on joue avec les mots. En français, fiancée, bien, ce n'est pas encore marié. Mais à l'époque, quand on était fiancé, c'était déjà une promesse à vie. Donc, une fiancée, c'était déjà une épouse, pour ainsi dire. Et c'est ce que vous aurez dans cette compréhension lorsque vous lisez le reste de cette description. Donc, dans la vie de tout le monde, déjà, Marie était épousée, entre guillemets, avait épousé Joseph, était sa fiancée. Autrement dit, une fois pour toutes, c'était déjà un mariage, une alliance conclue. Alors, Marie, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Ah, nous avons un problème. À cette époque-là, et nous savons que Marie était une sainte, Marie ne pouvait pas avoir eu des rapports sexuels avec Joseph avant d'être vraiment mariée, mettons. Et ensuite, si elle était enceinte avant même, voyez-vous, c'est marqué, avant même qu'ils eussent habité ensemble. Alors, comment est-ce que Marie se trouva enceinte? La Bible dit, verset 18, Matthieu 1, « Par la vertu du Saint-Esprit ». Alors, je vous pose la question. Si le Christ a été conçu par la vertu du Saint-Esprit, il avait pour père le Saint-Esprit si le Saint-Esprit était une troisième personne. C'est ce qui est marqué. Continuons. Je prends mon temps parce que ça vaut la peine d'examiner tout ça. Écoutez, nous devons vérifier notre religion. Nous devons comprendre ce que c'est que le Christ, ce que c'est que Dieu. Nous devons aller de l'avant avec cette absolue compréhension, certitude que nous savons vraiment pourquoi nous sommes ici et où nous allons. Verset 19, Matthieu 1. Joseph, son époux, voyez-vous, ici c'est marqué. Avant, c'était avant d'être fiancé, mettant le mot époux en français, d'accord. Donc, c'était déjà considéré, je répète, en tant qu'époux et épouse. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et c'est normal. Dieu a choisi ce couple. Donc, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas diffamer sa femme. C'est normal, vous voulez protéger votre femme. Donc, se proposa de rompre secrètement avec elle. Autrement dit, Joseph a agi en tant qu'un gentleman, comme on l'appelle. Il était correct. Il a vu sa femme enceinte, il ne savait pas ce qui se passait. Et voilà, la meilleure façon, c'est de la mettre un peu loin et de se séparer d'elle. C'était ses pensées. Verset 20. Voyez-vous, tâchez de comprendre, lorsque vous lisez la Bible, tâchez de comprendre de cette façon-là. Comme il pensait à cela, voici un ange de Dieu, du Seigneur. Voyez-vous, le mot Seigneur apparaît encore. Lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David par naissance physique, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Voyez-vous, déjà l'ange traite Marie en tant que la femme de Joseph, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Regardez voir ça. L'enfant que Marie a conçu vient du Saint-Esprit. Pas, mettons, d'une troisième personne, du Saint-Esprit, parce que le Christ lui-même, tout au long de l'Évangile, appelle Dieu le Père, mon Père. Donc, le Saint-Esprit n'était pas une troisième personne. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu le Père, de Dieu le Fils plus tard. Le fait est que le Saint-Esprit est l'Esprit qui unit Dieu le Père et Dieu le Fils. Ensuite, elle enfantera, dit l'ange, un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Autrement dit, l'ange dit tout à Marie. Et plutôt, je dirais, à Joseph. Et ensuite, l'ange clarifie encore la situation. Verset 21, c'est lui, Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyez-vous, déjà dans ces quelques versets, nous savons que le Christ avait comme Père le Saint-Esprit, qui n'est pas une personne, c'est l'Esprit de Dieu, et que Jésus avait une mission, sauver son peuple de ses péchés. Ses péchés, oui, parce que le Christ est venu donner sa vie pour nos péchés. La plupart des chrétiens de nos jours, voyez-vous, se sont laissés, ou se laissent plutôt, séduire par les mots « Trinité ». Trinité en tant que trois individus dans la famille divine n'est pas bibliquement valable. Il y a une famille, Dieu le Père et Dieu le Fils pour le moment. Troisième personne, il n'y en a pas. Cette troisième personne, si vous voulez, qu'on appelle Saint-Esprit, n'est pas une personne. C'est l'Esprit de Dieu, je répète, et c'est cet Esprit de Dieu, le Père, qui a engendré le Fils en ce bas monde. Je répète, c'est clair, si le Saint-Esprit était une troisième personne, le Christ avait le Saint-Esprit pour Père et non pas Dieu, le Père lui-même. Et ce qui n'est pas le cas, parce que tout au long de l'Évangile, le Christ parle de son Père et il désigne Dieu le Père. Bon, continuons. Maintenant, nous avons vu donc ces sept appellations du Christ, cette façon de l'appeler. Et maintenant, il y a encore une autre façon de voir les choses. Il y a dans la Bible, en ce qui concerne le Christ, sept façons différentes de l'appeler. Eh oui, tout comme l'Ancien Testament, il y avait sept appellations de Dieu, Elohim, Shaddai, etc. Ici, dans le Nouveau Testament, vous avez presque la même chose d'une façon différente. Il y a sept différentes désignations du Christ. Je ne sais pas comment dire appellation, désignation, mais vous savez ce que j'entends. Regardez voir, je vais aujourd'hui dans mon sermon, du reste, ça c'est mon sujet, je vais analyser chacune de ces désignations du Christ. Et il y en a sept. Intéressant, c'est toujours le mot 7 qui apparaît, et je tâcherai de prendre mon temps, je ne sais pas si je peux, je suis sûr que je ne peux pas terminer aujourd'hui à expliquer les sept désignations. je prendrai peut-être une ou deux, on verra. Ensuite, plus tard, je prendrai une ou deux, peut-être deux ou trois sermons, je ne sais pas, on verra. Le fait est que je veux que vous puissiez comprendre quelles sont les significations, les explications de cette désignation en ce qui concerne le caractère du Christ. Alors, laissez-moi d'abord vous citer les sept appellations ou désignations. Ensuite, je prendrai une par une pour les expliquer. D'abord, Fils de Dieu. Vous trouvez dans le Nouveau Testament, évidemment, Fils de Dieu. Ensuite, vous avez Rocher. C'est une autre façon de parler du Christ. Ensuite, vous avez Pierre angulaire. Tout ça par rapport au Christ. Ensuite, le mot « je suis ». Ça, je vais vous les expliquer. Ensuite, le premier et le dernier. Tout ça désigne le Christ. Ensuite, sauveur. Et septièmement, le pasteur. Je répète, Fils de Dieu, rocher, pierre angulaire, je suis premier et dernier, sauveur, pasteur. Ces sept désignations s'attribuent au Christ. La Bible parle clairement, voyez-vous, dans les deux testaments de Dieu, de cet Elohim dont je vous parle, de ce Shaddai, El Shaddai, le Tout-Puissant. Eh bien, prenons l'Ancien Testament d'abord. L'Ancien Testament, écrit en hébreu, commence « Au commencement, Dieu, Elohim, la famille. Dieu créa les cieux et la terre. » Alors, tout ce qui existe, tout, absolument tout, a été créé par Elohim, la famille. Dieu au pluriel, si vous voulez. Ici, ce mot Elohim, je répète, désigne une pluralité. C'est comme en français un groupe, une famille, etc., une société. Alors, au commencement, Dieu le Père et le Christ, ensemble, on crée l'univers. Lorsque j'ai dit l'univers, j'entends bien l'univers. Tout ce qui existe, autrement dit, rien ne pourrait jamais exister avant cette création. La Bible ne fixe pas de date. On ne sait pas quand cette création a eu lieu. Voyez-vous, c'est là où les gens comprennent mal. Lorsque nous disons que cette terre existe et que le premier homme sur cette terre, sa naissance date de 6000 ans, nous ne faisons pas allusion à la naissance de la planète. Nous faisons allusion à la naissance du premier homme sur cette terre. Eh bien, selon la Bible, nous savons fort bien que le premier couple, Adam et Ève, ont vécu sur cette terre seulement il y a à peu près 6000 ans. Autrement dit, l'homme, la femme, ont été créés à peu près il y a 6000 ans. Pas la terre, pas l'univers. L'univers et la terre peuvent avoir été créés des milliards, des trillions, je ne sais pas. Tout ce que vous voulez. La Bible ne précise pas. Dieu dit que cette création que nous avons a été faite par Elohim. Ça, c'est l'Ancien Testament qui explique. Je sais que ça peut paraître difficile, mais ce n'est pas difficile. Je tâche de faire aussi simple que possible. Maintenant, revenons au Nouveau Testament. Il n'y a pas deux dieux, je répète, il y a la famille divine, Elohim. Dieu, le Père et le Christ. Bon, son Fils. Maintenant, le Nouveau Testament qui est écrit en grec, regardez voir comment tout cela est décrit. Je vous ai cité Genèse, chapitre 1. Maintenant, laissez-moi vous citer Jean, Nouveau Testament, chapitre 1. Au commencement, voyez-vous, on ne peut pas avoir deux commencements. Il y a un seul commencement. Donc, le commencement dont il est question dans l'Ancien Testament est le même commencement dont il est question dans le Nouveau Testament. Et Jean écrit, au commencement était la parole. Qui est cette parole? La parole était avec Dieu. Voyez-vous, Elohim, Dieu le Père, et le Christ qui est appelé ici parole. Et la parole était Dieu. Voyez-vous, on ne peut pas se tromper. Le Christ la parole était Dieu au commencement. Et ensemble, Elohim, ils ont créé ce qu'on appelle la création de l'univers entier. Elle, la parole de Christ, était au commencement avec Dieu. Alors maintenant, verset 3, toujours Jean 1. Ça, c'est intéressant, c'est presque fascinant, du moins pour moi. Toute chose, écoutez, toute chose signifie toute chose. Il n'y a rien qui soit laissé de côté. Toutes choses ont été créées par elle, c'est-à-dire par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean explique d'une façon très claire. Alors, donc, le Christ est le Créateur suprême. Lui et son Père, ensemble, ont créé. Mais ici, le rôle principal est accordé au Christ, que toutes choses ont été faites par elle, la parole, et qui existe aujourd'hui. En elle, en Christ, en la parole, est la vie, verset 4, la lumière des hommes. Que signifie cela? Comment le Christ peut-il être ma lumière? Dans ce sens que voyez-vous, la vie que j'ai, ça vient du Christ. Dieu seul a la vie. Donc, la vie que nous avons, c'est la vie du Christ. C'est la vie que Dieu nous donne. Pour le moment physique, plus tard, après la résurrection des morts, ça sera la vie spirituelle. Ensuite, Jean explique d'une façon tout à fait charmante, je dirais, c'est une façon de parler, il dit, la lumière, le Christ, Dieu, lui dans les ténèbres. Eh oui, écoutez, nous, voilà, tout ça c'est ici, cette lumière dont on parle. Vous pouvez voir autour de vous, on peut comprendre cette lumière, lui, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Les ténèbres, c'est ce que vous voyez autour de vous. L'attitude des gens, le comportement de l'humanité. Donc, avec ce comportement, vous ne pouvez pas voir la lumière. Et pourtant, la lumière, lui, aujourd'hui, tout ce que je vous dis, voyez-vous, ça, lui, on peut voir. On peut constater. On peut voir la beauté avec laquelle la Bible parle de la création. Voyez-vous, tout ça, c'est important pour moi parce que je vais, comme je vous ai dit, commencer maintenant à analyser les 7 désignations de Christ. Eh bien, la première désignation s'agit vraiment de ce que je viens de dire, le Fils de Dieu. Parce que cette lumière, la vie des hommes, était le Christ. Et le Christ est le Fils de Dieu, nous venons de voir. Dans Matthieu, voyez-vous, il a été conçu par Dieu, le Père, il était le Fils de Dieu. Eh bien, voyez-vous, cette appellation, évidemment, le Fils de Dieu, est seulement mentionnée dans le Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu, le Père, et Dieu, le Christ, tous deux divinités, ils n'avaient pas encore cette naissance terrestre du Christ en ce qui concerne pour venir ici, pour donner sa vie. Cette appellation Fils de Dieu se trouve seulement dans le Nouveau Testament. Pas dans l'Ancien, c'est normal. Et je répète encore une fois, Dieu le Père a conçu par son Saint-Esprit Jésus qui est devenu le Christ et que le Nouveau Testament parle du Christ et qui dans l'Ancien Testament n'était pas appelé Fils de Dieu, c'était appelé par un nom, un mot hébreu que nous avons déjà vu comme Elohim ou bien Adonai, etc. Cette vérité semble un peu difficile à comprendre, mais elle ne l'est pas. Même les apôtres du Christ ne comprenaient pas. Écoutez, le Christ a vu les apôtres, il les a appelés, alors que les apôtres étaient des pécheurs de profession. Le Christ les a appelés, puis eux, ils ont répondu. Mais ils ne savaient pas qui était le Christ. Et lorsque le Christ les a appelés, ils ont vu en lui la lumière, et ils ont répondu à cet appel. Mais entre eux-mêmes ne savaient pas. Une preuve, la voilà. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13, nous lisons, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, c'est le Christ qui demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Je répète, parfois, dans la Bible, Nouveau Testament, vous avez le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Ici, le Christ parle de sa naissance en tant qu'être humain sur cette terre. Il était homme et Dieu en même temps. Il dit qu'il était le Fils de l'homme. Ailleurs, vous trouverez le Fils de Dieu. Mais prenons maintenant la question que le Christ lui-même m'a posée. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent. Alors, comment ont-ils répondu? Les uns disent, on dit, tu es Jean-Baptiste. Les autres disent, tu es Élie, prophète. Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Voyez-vous, les disciples ne savaient pas qui était le Christ. Alors le Christ a dit, mais vous, verset 15, que dites-vous? Qui dites-vous que je suis? On ne peut pas être plus clair à vous. Maintenant, c'est directement une question posée aux disciples, aux apôtres. Simon-Pierre, sous l'inspiration divine, a dit, tu es le Christ. C'est la première révélation ici où nous voyons que l'un des disciples identifie le Christ. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Voilà, voyez-vous, le Fils de Dieu par rapport au Fils de l'homme. Ce sont identiques. C'est une façon de nommer, selon les circonstances, les titres. Donc, Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Quelle a été la réponse du Christ? Le Christ a dit, tu es heureux, dit-il, Simon, verset 17, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cette vérité, mais c'est mon Père. Voyez-vous, encore une fois, c'est son Père. Donc, il appelle Dieu le Père, son Père, et non pas le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, vous pouvez voir ici très clairement ce que c'est que le Fils de Dieu. Rappelez-vous que Jean, chapitre 1, verset 1, ce Fils de Dieu a été dès le commencement, était la parole, et il était toujours avec Dieu. Et maintenant, tâchez de voir l'importance du Christ, ses qualifications, ses talents, son rôle, la raison pour laquelle il est venu en tant qu'être humain sur cette terre, humain en partie, Christ toujours parce qu'il était toujours éternel. Donc, il était sur cette terre et c'est lui qui a créé toutes choses. Il est venu donner sa vie pour que nous puissions avoir, vous et moi, et le monde entier, accès à la vie éternelle. Regardez voir comment l'apôtre Paul définit les qualités, les attributs du Christ. Prenez le temps, je vous dis, je vais aussi lentement que possible, mais tâchez de comprendre, tâchez de prendre le temps de lire tous ces chapitres. Je prends quelques versets. Colossiens chapitre 1, lisez-vous même le chapitre entier. Alors, Colossiens 1, verset 12. Paul dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voyez-vous, ça s'éclaircit. Nous sommes, nous, si nous sommes saints, si nous sommes appelés par Dieu, nous sommes des saints, et dans ce cas, nous avons un héritage. Et c'est quoi cet héritage? Verset 13, qui nous a délivrés, le Christ, de la puissance des ténèbres. Voilà ce que vous avez autour de vous, les ténèbres. Nous sommes, en ce bas monde, encore sous l'influence de Satan, le diable. Voilà pourquoi ce monde est en ténèbres. Et Paul continue, délivré de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, du Fils de son amour, c'est le Christ. Nous sommes transportés dans cette direction, lorsque nous faisons notre part, c'est-à-dire nous repentir de nos péchés et suivre la voie que le Christ a tracée devant nous. C'est ce qui est marqué au verset 14. En qui nous avons de la rédemption, la rémission des péchés, voyez-vous, ça, c'est du sens. C'est par la rémission des péchés que nous arrivons à cette sainteté. Car en lui, verset 16, écoutez, on ne peut pas être plus clair. Prenez n'importe quelle langue, ça n'a aucune importance. Regardez ces mots dans n'importe quelle langue, ils sont clairs. Car en lui, c'est-à-dire en Christ, ont été toutes choses. Nous savons, nous avons déjà vu. Et toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, le Fils de Dieu, le Christ, et pour lui. Oui, pour lui, parce que c'est lui qui a donné sa vie pour que nous puissions, nous, être transformés un jour. Verset 17, Colossiens toujours 1, verset 17, il est avant toute chose, qui ? Le Fils de Dieu, le Christ. Avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Donc, voyez-vous, si toute chose subsiste en Christ, rien ne peut avoir existé avant le Christ. C'est du reste, c'est quelque chose que nous allons voir plus tard. Il est la tête du corps de l'Église. Maintenant, on revient, c'est Paul qui explique ce que c'est que l'Église. Ailleurs, dans Éphésiens, vous verrez, Christ est appelé le chef de l'Église, la tête de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts. Voyez-vous, là encore, il n'est pas premier-né en ce qui concerne, il a été né physiquement parlant. Non, le Christ est éternel. Mais il a été premier-né d'entre les morts sur cette terre lorsqu'il est venu ici pour donner sa vie. Du reste, vous verrez ça plus tard dans les écrits de Paul. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né. Je continue. Vous savez, je ne sais pas si je pourrais finir ça aujourd'hui même, cette première appellation, ou deuxième, mais je prendrai mon temps. Comme je dis, s'il le faut, je prendrai 4 ou 5 sermons pour expliquer qui est le Christ. Éphésiens 3, versets 6 à 9. Ce mystère, parce que voyez-vous, tout ça, ça paraît mystère, là. Mystère à nous tous aujourd'hui. Il dit, ce mystère, dit Paul, c'est que les païens sont cohéritiers. Qui sont les païens? Là encore, nous savons que Dieu appelle aujourd'hui pour que nous puissions tous être en quelque sorte circoncis, spirituellement parlant, et être donc de la famille de Dieu, de la famille de ceux que Dieu a appelés. Il dit, les païens sont cohéritiers. Il n'y a pas de différence en ce qui concerne l'humanité aux yeux de Dieu. Nous sommes tous un. Nous sommes tous égaux. Nous avons tous un même but. Il dit, forme un seul, un même corps. Participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du retour de Christ. Lorsque tous les hommes comprendront enfin qu'une fois pour toutes, qu'ils sont vraiment enfants de Dieu, physiquement parlant maintenant, et qu'ils peuvent être plus tard, spirituellement parlant. Et Paul ajoute au verset 7, dont j'étais fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par la puissance divine. Ensuite, Paul, évidemment, je dirais, dit la vérité en exprimant sa gratitude. Il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Pourquoi le moindre? Parce qu'au début, Paul a persécuté les chrétiens. Il était contre les chrétiens parce que Paul était un homme qui voulait absolument être dans la vérité et il pensait être dans la vérité en étant un pharisien. Mais lorsque plus tard le Christ l'a appelé sur la route de Damas, comme vous savez, et que le Christ lui a révélé la mission qu'il avait pour Paul, Paul a changé. Dès ce moment-là, tout ce que Paul avait appris est resté dans son esprit. Il a donné sa vie pour ça. Voilà pourquoi il dit... J'étais le moindre de tous les saints parce qu'il a persécuté les païens, les chrétiens. Il dit, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles du Christ. Voyez-vous, l'esprit humain ne peut pas comprendre. Parce que nous sommes limités, l'esprit humain. Mais Dieu n'est pas limité. Voilà pourquoi, lorsque vous ne comprenez pas certaines choses dans la Bible, prenez le temps. Attendez jusqu'à ce que Dieu vous le révèle. Il dit, et de mettre, verset 9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps. Et c'est ça, c'est cette vérité qui se trouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qui est cachée en quelque sorte dans un monde où Satan, le diable, est encore roi. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit que nous avons reçu, nous pouvons comprendre cette vérité. Nous sommes membres de l'Église de Dieu. Voyez-vous, nous commençons, nous, la compréhension de ces choses-là lorsque nous nous faisons baptiser, lorsque nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous recevons le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses-là. Le Christ est le Créateur suprême. Et nous, en tant que membres de l'Église, nous avons ce Créateur suprême en tant que chef de l'Église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous devons toujours, en toutes choses, avoir le Christ en tant qu'exemple. Je vous dis, c'est tellement beau de voir ceci. Prenez voir, par exemple, vos prières. Quand est-ce que vous priez? Au nom de qui priez-vous? Là encore, bibliquement parlant, nous devons toujours prier au nom du Christ. C'est ce que le Christ a dit. Il dit, demandez par mon nom. Demandez et vous recevrez. Donc, nos prières sont adressées à Dieu le Père par l'intermédiaire du Christ, le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu intercède pour nous. Moi, je ne peux pas vous aider en ce qui concerne un miracle. Les seuls miracles sont faits par Dieu le Père et le Christ. Je peux prier au nom du Christ, mais la guérison ou le miracle se fait par la puissance divine. Et cette puissance, voyez-vous, mes frères et mes sœurs, souvent nous sous-estimons. Ce matin encore, ce matin, en venant au bureau, je parlais à quelqu'un qui avait l'esprit tout à fait abattu. Et oui, cet homme pleurait. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, enfin, je ne veux pas entrer dans les détails, mais il y avait un malade dans la famille. Je lui ai dit, écoutez, où est votre foi? Oh, monsieur Portian. Il dit, non, écoutez, c'est ça. C'est le moment où vous devez vraiment faire preuve de votre foi. C'est le moment où il ne faut pas faiblir. C'est facile d'être chrétien lorsque tout va bien chez vous et autour de vous. Mais lorsque les choses sont contraires à ce que vous attendiez, c'est à ce moment-là que vous devez avoir foi en Dieu. C'est à ce moment-là que vous devez avoir une attitude positive. C'est à ce moment-là que vous devez dire, écoute, je sais que Dieu est avec moi, que le Christ est mon sauveur, et je ne vais pas abandonner cette foi. Voyez-vous, si vous faites ça, dans ce cas-là, vous êtes proche de Dieu. Laissez-moi vous citer comment l'apôtre Paul définit, c'est une façon de parler, la puissance du Christ. Éphésiens chapitre 3, Éphésiens 3, versets 20 à 21, à celui qui peut faire, regardez-moi cette puissance dans ces mots, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Cette puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous infiniment. Voyez-vous, ce n'est pas un mot vide de sens. Infiniment signifie infiniment. Infiniment quoi? Infiniment au-delà. Vous savez, les mots ne peuvent pas décrire cette sublime vérité. On finit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Il n'y a rien que vous puissiez demander qui serait donc limité par quoi que ce soit. Tout ce que vous pouvez demander au Christ, il peut encore faire davantage. Ensuite, au verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà cette puissance dont nous parlons. Je répète, mes frères et mes sœurs, souvent dans l'Église de Dieu, nous sommes, comment dirais-je, nous n'avons pas assez de courage, nous n'avons pas assez d'une attitude positive. Si nous savons que le Christ intervient pour nous, intercède pour nous, si le Christ interprète, si vous voulez, nos paroles, nos prières auprès du Père, pourquoi ne pas faire foi en Christ? Ce n'est pas vous qui faites, c'est lui qui fait. Rappelez-vous, en toute chose, nos prières doivent être adressées au nom du Christ. Et le Christ comprend, et le Christ sait. Le Christ a souffert pour nous. Le Christ a souffert comme tout autre homme sur cette terre, et même davantage. Il sait ce que c'est qu'être homme. Il sait ce que c'est que souffrir. Donc il peut comprendre, prendre vos paroles, mes paroles à moi, et les interpréter à Dieu le Père en disant, écoute Dieu, j'étais sur la terre, je sais ce que c'est que souffrir ici-bas. Il a été persécuté. Il a été, à tout point de vue, je dirais, persécuté, trahi même. Il a donné sa vie. Donc, regardez voir ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8. Ça, c'est, pour moi, c'est la base même de la foi. Vous avez un problème, mettez-vous à genoux. Priez avec ce que je vais maintenant vous citer. Priez de cette façon. Romains 8, verset 26. De même, dit-il, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit du Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Voyez-vous, même Paul dit que nous ne savons pas comment demander dans nos prières, mais dit-il, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Si le Christ intercède pour moi par des soupirs inexprimables, pourquoi suis-je donc si, il dirait, faible dans mes prières? Voilà où nous sommes faibles, voyez-vous. Si nous avons cette compréhension que le Christ est là, il entend nos prières, il s'adresse à Dieu le Père et il parle pour nous, nous n'avons pas, je dirais, nous n'avons pas de doute. Il n'y a aucune raison de douter. Et Paul ajoute celui, verset 27, « Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. » Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le mot « saint » dans la Bible désigne ceux, pas des gens qui sont morts et dont les, qui seraient en principe au ciel, pas du tout. Les saints qui sont morts sont ceux qui ont été appelés par le Christ, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont morts aujourd'hui et qui seront ressuscités lors de la résurrection des morts. Donc nous sommes pour le moment, entre guillemets, des saints. Nous sommes encore, autant que nous restions fidèles au Christ, nous sommes des saints et nous attendons cette récompense lors de la résurrection des morts. Dans Hébreux, vous avez la même vérité qui se révèle. C'est Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela, dit-il, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Le Christ peut sauver par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, en faveur des saints. Voyez-vous, je ne sais pas si je pourrais finir au moins même cette première partie, mais ça devient de plus en plus encourageant. Dieu le Père aime le Christ. Et Dieu le Père nous aime. Lorsque nous prions au nom du Christ, le Christ nous aime et le Christ intercède pour nous. Si nous avons de la bonne attitude, si nous restons fidèles au Dieu et au Christ, et nous faisons leur volonté, dans ce cas-là, nos prières seront toujours exaucées. Alors, il dit, ainsi dit-il, le verset Hébreux 4, verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, voyez-vous, demeurons fermes dans la foi que nous professerons. » Pourquoi nos prières ne sont-elles pas exaucées toujours? Elles le sont, mais nous ne sommes pas fermes dans la foi. Voilà ce qui se passe. Nous devons, nous, faire notre part. Et après, dans Hébreux chapitre 4, verset 15, nous lisons, regardez voir cette vérité. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Pourquoi? Parce que le Christ a souffert pour nous. Il était en ce bon monde. Il a été tenté, dit Paul, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. On ne peut pas avoir une révélation plus importante que celle-ci. Le Christ sait ce que c'est qu'être humain. Il a souffert pour nous, donc il peut expliquer à Dieu le Père, voilà pourquoi être humain, ce n'est pas toujours facile. Approchons-nous donc, dit-il, verset 16, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Eh oui, rappelez-vous cela. Le Christ a souffert. Le Christ sait ce que c'est qu'être humain. Le Christ a donné sa vie. Et il est votre défenseur. Il est votre avocat. Il est votre porte-parole, pour ainsi dire, Autrement dit, il prend vos paroles à vous et il les présente à Dieu le Père d'une façon que Dieu le Père peut réagir. Écoutez, faites des recherches. Lisez le reste de ce chapitre que je lis ici. Faites des recherches afin de savoir exactement de quoi il s'agit. Plus vous étudiez vous-même ces choses, plus vous serez éclairci et illuminé dans ces vérités qui sont sublimes. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, mais je vais prendre au moins la deuxième appellation du Christ, et c'est celle que j'ai nommée avant, Rocher. Et oui, le Christ est nommé et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament en tant que Rocher. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que le Rocher ? D'abord, le Rocher est quelque chose de solide, qui ne bouge pas, physiquement parlant. Ensuite, parce que, voyez-vous, lorsque le Christ a fait sortir les enfants d'Israël et d'Égypte, il était le rocher, il était le guide. Moïse a conduit les enfants d'Israël par la puissance du Christ. Et c'était à travers l'Ancien Testament, vous pouvez voir, que c'était toujours le rocher qui les guidait. Et c'est ce rocher, ce Dieu de l'Ancien Testament, le Fils de Dieu dans le Nouveau, qui a donné les 10 commandements. Celui qui a parlé à Adam et Ève. Celui qui a conduit les Israélites hors de l'Égypte. Ça, c'est rocher, voyez-vous. Et l'apôtre Paul, à nouveau, parle de cela très clairement. Regardez ce qu'il dit, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Il parle de cet exode. Il dit, « Ils ont tous, les enfants d'Israël, bu le même breuvage spirituel. » Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Voilà, c'est désigné, on ne peut pas être plus clair. Le rocher dont il est question, c'est le Christ. Là encore, lisez le reste. Dans l'Ancien Testament, il y a le cantique de Moïse. Avez-vous jamais pris le temps de lire le cantique de Moïse? Vous savez comment ce cantique commence? Prenez le temps, je répète, c'est ça qui vous intéresse, c'est ça qui vous aide à comprendre la Bible. Voilà les paroles suivantes dans le cantique de Moïse. C'est Moïse qui parle, Deutéronome chapitre 3, chapitre 32, versets 3 à 4, Deutéronome 32, 3 à 4. Moïse dit, « Je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez grâce à notre Dieu. » Il est le rocher, verset 3. Voyez-vous, on parle du Christ. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle. On parle de l'Ancien Testament, on parle du Dieu de l'Ancien Testament, que les gens appellent d'une façon générale cruel. Moïse dit, c'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit. Alors, commencez-vous à comprendre, c'est ce cantique-là que nous devons lire pour comprendre la sublime beauté de la vérité en ce qui concerne le Christ, sa mission et ce qu'il a fait pour nous tous. Savez-vous qu'il y a aussi dans la Bible un autre cantique, cette fois-ci, pas de Moïse, mais de David, que David lui-même a fait un cantique sur le rocher, regardez voir. David, qui était un homme selon le cœur de l'Éternel, psaume chapitre 18, versets 1 à 3. Il dit, du serviteur de l'Éternel, c'est David, qui adressait à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel eut délivré de la main de David tous ses ennemis, il dit, je t'aime, c'est David qui parle, ô Éternel. Je t'aime, ô ma force. L'Éternel, là encore, si vous comptez les attributs, vous pouvez voir que David nomme sept attributs en ce qui concerne la puissance de Dieu. Il dit, je t'aime, ô Éternel, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. C'est fantastique. Voyez-vous, là encore, tout est là, tout est défini. David nous donne la signification du mot rocher en ce qui concerne les qualités du Christ, les attributs, sa puissance. Le Christ est notre bouclier. Bouclier qui nous protège contre toute attaque. Le Christ est notre rocher, comme c'était à l'époque de l'Ancien Testament, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Le Christ est notre haute retraite. En toute chose, voilà votre retraite, le Christ. Arrêtez-vous là. Restez dans ce cercle qui appartient au domaine du Christ. Nous avons déjà vu donc le cantique de Moïse, nous avons vu le cantique de David, et nous avons vu que les deux appellent le Christ notre rocher. Et maintenant, je ne sais pas si je peux encore dire deux ou trois petits mots. 2 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 3. C'est David qui parle. David adresse les paroles suivantes à l'Éternel Dieu. Et il écrit un cantique. Il dit, l'Éternel, verset 2, est mon rocher. L'Éternel est ma forteresse. L'Éternel est mon libérateur. Ah, c'est encore ce groupe de 7 qui arrive, voyez-vous. L'Éternel, Dieu est mon rocher, je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, la haute retraite, mon refuge. Voyez-vous, dans ce sermon, je répète, nous avons vu les qualités du Christ en tant que rocher. Nous avons vu la présence du Christ en nous en tant que fils de Dieu. Aujourd'hui, si nous prenons le temps d'examiner tout cela, si nous avons foi en Dieu, si nous pouvons prier avec cette compréhension, rien ne peut nous détourner de la vérité. Rien ne peut nous faire décourager. Certes, nous avons des hauts et des bas, nous sommes tous humains. Le Christ aussi a eu des hauts et des bas sur cette terre, mais a toujours eu les yeux sur le Christ. Il nous a dit, vous n'êtes pas seul, je suis avec vous. Je suis votre Dieu qui vous guide. Voyez-vous, le Christ est cette pierre angulaire dont la Bible parle. Si nous avons, nous, notre refuge en lui, nous serons toujours chrétiens, nous serons toujours des saints, nous n'aurons jamais cette attitude défaitiste qui dit « je n'en peux plus ». Le mot « je n'en peux plus », les paroles « je n'en peux plus » ne doivent pas être dans le vocabulaire d'un véritable chrétien. Non, je ne suis pas fou. Je sais que je suis faible comme vous. J'ai des moments de faiblesse, je sais. Mais nous devons en ressortir, avoir les yeux sur le Christ et dire que le Christ peut faire toutes choses pour nous. Vous savez, comme je dis, je vois que je ne peux pas finir, mais au moins vous avez une idée, j'espère une idée, de ce que c'est qu'être vraiment rocher, bibliquement parlant. Bon, dans ce sermon, j'ai sûrement pu couvrir, en vitesse peut-être, ce que c'est que le Fils de Dieu et ce que c'est que le rocher. La prochaine fois, nous allons parler du reste, des autres qualités du Christ, des appellations dont je vous ai cité déjà les détails au commencement de ce sermon. Eh bien, laissez-moi au moins vous dire ceci. Le troisième attribut, la troisième appellation qui concerne le Christ, qui était, pour définir le Christ, c'est le petit verbe « je suis ». Oui, parce que voyez-vous, c'est quoi « je suis » ? Eh bien, c'est la question que nous nous posons en ce qui concerne le Christ. Et le Christ est vraiment la réponse. Parce que lorsque on lui a demandé, là encore je ne vais pas entrer dans le sujet, mais vous pouvez voir dans Exode chapitre 3, les gens étaient en plein découragement et Dieu désignait Moïse en tant que le guide qui allait guider les Israélites hors d'Égypte. Et Moïse n'était pas capable de le faire, il savait qu'il n'avait pas la puissance. Et Moïse a dit, écoute, moi je ne peux pas faire ce travail. Comment est-ce que je peux vraiment aider ces gens? Qui suis-je? Je n'ai même pas la parole facile. Et Dieu a expliqué à Moïse, vous n'avez qu'à lire à nouveau Exode 3. Ensuite, Moïse a posé une question. Verset 13, Exode 3. Il dit, eh bien, s'ils demandent ces gens-là mon nom, ton nom plutôt, qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Quelle a été la réponse du Christ? Verset 14, Exode 3. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Nous en parlerons la prochaine fois. Je vous expliquerai ce que signifie je suis celui qui suis. C'est cette parole qui est restée dans Moïse. C'est cette parole qui a encouragé Moïse jusqu'à la fin. Mes frères et mes sœurs, le Christ est notre sauveur. Le Christ est notre libérateur. Le Christ est notre espoir. C'est que le Christ veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous puissions être dans son royaume. Faites ce qu'il vous dit dans la Bible. Comme je dis, nous continuerons ce sujet la prochaine fois.